Cet ancien gangster a dû se couper lui-même les deux auriculaires, phalange par phalange, pour calmer la colère de son chef comme le veut la coutume des Yakuza, la mafia japonaise. Lorsqu'il a finalement décidé de quitter le milieu, il a aussi dû se séparer d'un de ses annulaires.
Est-ce que comme les Yakuza d'aujourd'hui, nos ancêtres du paléolithique se coupaient volontairement les doigts? C'est une question, une drôle de question à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard.
Oui Mathieu, et ce coupage de doigts est un sujet qui fait débat et depuis longtemps chez les préhistoriens. On retrouve des empreintes de mains amputées sur les parois des grottes de presque toute l'Europe. Dans la plus emblématique, celle de Gargasse dans les Pyrénées, il manque des doigts sur la moitié des mains. Et une étude canadienne qui paraît cette semaine renforce la thèse d'une coupe intentionnel. Pour tenter de comprendre pourquoi nos ancêtres auraient eu cette drôle d'idée, on discute avec le préhistorien Jacques Joubert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux et chercheur au laboratoire PACEA. Alors ça fait combien de temps que cette histoire de doigts en moins fait débat entre préhistoriens ?
Ah bah écoutez, nous avions hier, pas plus tard qu'hier, un séminaire à l'université de Toulouse et l'une des collègues qui travaille sur la grotte de Gargasse parlait d'un serpent de mer.
Ah oui.
Un serpent de mer, c'est-à-dire que ce débat traîne depuis plusieurs décennies, depuis les années 50 pratiquement. Enfin, ça va, ça vient. Et le balancier là repart sur une hypothèse que soutient nos collègues canadiens sur des amputations volontaires.
Mais oui, mais les auteurs là parlent d'une amputation volontaire, mais c'est pas la vie majoritaire en Europe. Quelles pourraient être les autres possibilités pour qu'on voit apparaître ces mains avec des doigts en moins en peinture?
Alors, donc, on parle bien d'empreintes de mains négatives, avec des phalanges qui manquent dans les grottes ornées. Bon, d'abord, il n'y a pas tant de grottes ornées que ça. Il y en a quelques-unes en France, principalement Gargasse, Cosquer, Tibiran, et puis quelques-unes en Espagne. Elles ne sont pas majoritaires, loin s'en faut. Alors, les hypothèses, l'hypothèse la plus courante, c'est quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire qu'on replie volontairement ses phalanges, ses doigts, pour imprimer une empreinte de main artificiellement avec des doigts manquants. Mmh. Ça, c'est plutôt l'hypothèse sur laquelle s'alignent les préhistoriens. Et le leader de cette hypothèse a longtemps été le roi Gourand. Ça a été repris par Jean-Claude et Jean Courtin quand ils ont étudié Cosquer. Et puis après, de l'autre côté, nous avons des vraies amputations. Alors ces vraies amputations, elles peuvent être rituelles, sacrificielles, mais aussi maladives. C'est-à-dire qu'on perd des phalanges, par exemple en cas de gelure très forte. On a aussi longtemps parlé de la maladie de Raynaud. C'est un médecin, Ali Sali, qui avait proposé ces hypothèses dans les années 60. Et puis donc ces mutilations volontaires avec différentes déclinaisons interprétatives.
Mais alors, il y a 20 000, 30 000 ans, quelle était la bonne méthode? Est-ce qu'il y en avait une pour se couper un doigt sans risque?
La bonne méthode, ça dépend. Si vous vous alignez sur une méthode artificielle, la méthode elle est très simple. Elle constitue à replier volontairement ses doigts et à imprimer une image en négatif, donc artificielle. Et
je parlais plutôt de l'amputation.
On entend tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on, si vous voulez, quand on examine de très très près avec des macrophotos les empreintes de mains en question, certains disent que dans la zone où les doigts sont manquants amputés, justement, la zone n'est pas très clairement imprimée et donc c'est peut-être une amputation volontaire. Au contraire, on entend exactement l'inverse. Donc c'est très très difficile de se positionner par rapport à cette question en examinant les originaux.
Et Jacques
Après, on a du coup recours aux enquêtes ethnologiques, ethnographiques pour voir ce qui existe chez les groupes de sociétés traditionnelles.
Alors ces auteurs donc américains et canadiens là, qui parlent d'une amputation volontaire n'ont pas réussi à vous convaincre?
Pas complètement, non. Je reconnais que c'est une bonne contribution au débat. Et ça, c'est tout à fait salutaire parce que ce laboratoire, l'Université de Burnaby, là, est plutôt réputé pour les enquêtes ethno-archéologiques, ethno-préhistoriques. Ils sont très forts dans ce créneau-là. Et du coup, à contrario, l'archéologie européenne, française notamment, n'est pas tellement sur ce thème de recherche. Et ils ont pratiqué une enquête documentaire extrêmement bien fouillée. Ils ont sollicité, enfin je crois qu'ils ont récupéré quelque chose comme 121 corpus de cas de figure de sociétés en Afrique, en Amérique, en Océanie. Et donc, ils ont examiné quelles étaient les interprétations, puisque ce sont des groupes qui ont fait l'objet d'enquêtes. Donc voilà, il y a eu des échanges avec des ethnologues. Et après, on va vers le domaine archéologique et on essaye de l'appliquer au registre fossile. Ils ne m'ont pas complètement convaincu. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez.
Mais quand même, pour continuer de parler un peu de leurs travaux, quelle est la raison la plus représentée dans ces 120 cas qui amène à se couper un doigt ou plusieurs doigts?
Alors, il y a presque une dizaine de raisons. Hein. Donc, le plus important et celui qui trouve grâce à leurs yeux, c'est tout ce qui est, on va dire, sacrificielle, c'est-à-dire qu'on s'ampute volontairement une ou plusieurs phalanges pour s'allier une aide surnaturelle. En fait, c'est le cas le plus répertorié dans l'ethnographie. Mmh. Après, il y a des sacrifices qui marquent un événement très particulier, un deuil par exemple. Après, il y a une catégorie qui est également très très souvent évoquée, c'est des amputations identitaires. Vous l'avez évoqué avec ces histoires des Japonais et des Yakuza, là,
oui.
Où là, on essaye par ce sacrifice, et c'est une forme démonstrative, on est courageux, donc il y a des types de courage assez doux, comme le tatouage, et par un tatouage, on marque son appartenance à une secte, à un groupe identitaire, ou alors ça peut aller jusqu'à l'amputation, et c'est assez courant, et ça touche, en tout cas dans les sociétés traditionnelles, aussi bien les garçons que les filles, des jeunes, des plus âgés, des enfants. Après, il y a aussi des amputations pour conjurer une maladie, pour soigner une maladie. Parfois, l'amputation est associée à un mariage.
Mmh.
Également. Et puis, il y a des amputations de type punition, châtiment. Là, on coupe volontairement et donc sans le consentement du pauvre individu.
Oui,
ben
oui.
Par exemple, pour un cas d'adultère ou des voleurs ou des incendiaires qui se voient amputés de leur phalange.
Combien de doigts il manque en moyenne sur les mains de Gargasse, par exemple, puisque c'est la plus représentative?
Pour revenir à Gargasse, au grottes préhistoriques, ça dépend. Il y a à peu près une vingtaine de cas qui sont répertoriés et la plus courante, c'est l'ensemble des phalanges qui sont manquantes, sauf le pouce. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, tous les cas de figure que nous avons à Gargasse et dans les autres grottes, il y a toujours le pouce. Et donc, c'est justement une configuration qui, par rapport à cette enquête ethnologique, à mon avis, n'est pas tellement en faveur d'amputation volontaire. Parce que dans les enquêtes ethnographiques, ethnologiques, c'est plutôt des amputations très partielles. C'est une phalange, une phalangine, une phalangette, mais pas la totalité des doigts. C'est très très rare comme configuration.
Qu'est-ce qui nous permettrait de trancher dans cette histoire, si jamais je peux me permettre la question comme cela?
Trancher, oui, écoutez, moi je serais partisan, moi je suis archéologue préhistorien et donc oui. Mon réflexe ça serait de retourner vers les originaux, vers la paroi ornée et notamment celle de Gargasse. Il y a une grande paroi des mains qui est juste à l'entrée de Gargasse qui a déjà été étudiée bien sûr. Mais je pense qu'il y a maintenant d'autres outils à très haute résolution, des macrophotos. Et puis il y a quelque chose qu'il faut mentionner, c'est le recours à l'expérimentation. Il y a déjà eu des expérimentations mais là aussi on a fait des progrès. Donc revenir sur des expérimentations pour voir quelle est exactement l'impression d'une main avec les doigts repliés qui soit artificiellement repliée ou au contraire manquant, je pense qu'on peut encore revenir sur les originaux et trouver des arguments qui pourraient aller d'un côté ou de l'autre.
Axel, une dernière question.
Oui, mais je voulais juste savoir si on pouvait visiter cette grotte à Gargasse pour ceux qui sont curieux de voir ses mains.
Oui, Gargasse est dans les Hautes-Pyrénées, c'est à peu près une heure de Toulouse, et elle est ouverte au public et très bien aménagée, très intelligemment aménagée. Donc oui, c'est possible de visiter Gargasse.
Merci Jacques Jobert pour l'évocation de ce serpent de mer des doigts tranchés de la préhistoire. Merci beaucoup à vous, et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les glaces du Groenland qui fondent comme jamais. Les chercheurs de l'Institut Woods Hole dans le Massachusetts constatent une augmentation de 50% du ruissellement total des eaux de fonte glaciaire par rapport au début de l'ère industrielle et une augmentation de 30% depuis le XXe siècle. Inutile de rappeler que les pertes de glace au Groenland sont l'un des principaux facteurs de la montée du niveau de la mer. Les chercheurs précisent également que le Groenland est engagé dans un processus de fonte de plus en plus rapide à chaque degré de réchauffement supplémentaire. Sur Mars, Curiosity est tombé sur une belle pépite, un caillou métallique qui a été repéré sur l'un des clichés pris par le petit rover martien. Baptisé Little Colonsay, la pierre au reflet métallique de quelques dizaines de centimètres de large est certainement une météorite selon les experts, car ce genre d'objet est partiellement inhabituel sur le sol martien. Une analyse chimique grâce à l'instrument ChemCam devrait nous donner une réponse définitive rapidement. Et puis pour terminer, une puce bijoux pour mesurer votre exposition au soleil, mise au point par des universitaires chinois. Le dispositif mesure 8 mm de large et 1 mm d'épaisseur. Il peut être porté en boucle d'oreille, en collier ou simplement collé sur un ongle. La puce waterproof mesure la dose d'ultraviolet qu'elle reçoit et la transmet à votre téléphone en temps réel. L'ensemble de la technologie, le bijou plus l'application, a été racheté par une grande marque de cosmétiques et sera vendu une 50aine d'euros d'ici le mois prochain.